penser l'improbable, la biodiversité, l'écologie urbaine et la théorie queer, le tout en adoptant une lecture intersectionnelle, c'est l'ambition du podcast Intersection.
En confrontant la parole d'activistes, d'artistes, de chercheurs, chercheuses, venant de divers champs disciplinaires, l'émission a pour objectif de créer de nouvelles zones de contact, de nouveaux schémas réflexifs à même de mettre au jour des lectures du réel plus éclatées. À l'heure de l'effondrement, penser la lutte dans sa globalité et renverser les frontières entre les disciplines trouve pleinement son sens.
Alors venez nous découvrir, nous écouter, explorer, tâtonner et porter un nouveau regard sur l'activisme.
Intersection.
On est bon, on est chaud.
D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai pas du tout revu les questions que vous m'avez envoyées.
C'est pas grave. On est parti. On y va. Au pire, on en fera un deuxième. Si vraiment on le sent pas, il n'y a pas de problème.
Penser l'espace, l'environnement, l'interaction des corps et des paysages, penser les usages de l'espace et l'évolution de notre relation à cette notion, c'est ce sur quoi Ariane Leblanc et Gabrielle Fontana vont se pencher pour cette première émission. Dans un premier temps, Ariane reviendra sur son parcours en portant un regard socio-historique sur la notion d'espace. Quant à Gabrielle, il reviendra sur son projet multiforme et sur l'articulation entre espace, sport, performativité et rôles sociaux.
Alors, donc je m'appelle Ariane, je travaille dans un centre d'art qui s'appelle les Laboratoires d'Aubervilliers et je m'occupe plus précisément d'un projet qui se nomme La Semeuse, qui a été initié par une artiste en 2010, donc ça fait 10 ans cette année. Et donc, l'intérêt de ce projet, c'est que c'est un jardin et il est à l'intersection de plusieurs espaces, justement. Il est à l'intersection donc, de l'espace d'art, qui est le centre d'art, parce que ce jardin se situe juste devant. Il est à l'intersection de l'espace du dehors, donc l'espace public. Et il mélange, du coup, plusieurs usages, c'est-à-dire qu'on a une salle de boxe et une salle de théâtre qui entourent le jardin. Et donc, je me suis intéressée à ce projet justement parce qu'il est intersection de ces espaces-là et qui permet de créer une diversité de rencontres et une diversité d'usages, justement. Donc voilà, je travaille sur ce projet depuis 2016, exactement. Et j'y développe une programmation voilà, autour essentiellement des questions de art, des plantes et des questions de société. Et donc, le laboratoire d'Aubervilliers, donc c'est le centre d'art se situe à Aubervilliers, donc qui est une ville qui est assez singulière et intéressante par sa diversité, culturelle notamment, et aussi par énormément de choses qui y gravitent. Et voilà, donc ça c'est pour là où je travaille.
Pour moi, l'espace, en fait, il a différents types d'espaces, donc déjà différentes même stratifications, mais donc de manière assez générale et schématique, je dirais qu'il y a déjà l'espace mental et l'espace physique. Si on veut créer une certaine forme de dichotomie assez même simpliste, mais il y en a plein d'autres, mais là au moins ça permet aussi de créer une base aussi dans la discussion. Mais là, moi, ce qui m'intéresse de questionner aujourd'hui, c'est essentiellement donc l'espace physique, mais donc l'espace que je conçois donc dans l'espace de la ville, donc un espace construit, qui travaille la mise en relation des corps avec leur environnement. Donc, leur environnement, quand j'entends environnement, c'est environnement de la ville, donc qui est construit en ce sens-là. Donc, pour moi, la construction des espaces en ville se traduit par une planification des formes architecturales et végétales. C'est-à-dire que, par exemple, dans ce que je disais dans la présentation, dans ma carte de visite, comme tu dis, donc je travaille avec les plantes et ce qui m'intéresse, ce qui m'a beaucoup intéressé donc, dans la formalisation. Donc, la mise en forme des plantes, puisque c'est quelque chose qui est beaucoup travaillé dans les villes, c'est le paysage et comment on pense le paysage en milieu urbain. Et en fait, donc, le paysage est une mise en forme de la nature. Et on voit qu'aujourd'hui, les plantes sont vraiment des outils de planification, de spatialisation des environnements urbains. Donc voilà, donc ça peut être évidemment, donc ça devient des outils qui peuvent être utilisés comme pour hiérarchiser des espaces ou pour créer aussi des lieux d'exclusion. Donc la nature est vraiment comme un décor, et donc je dirais même celui d'un théâtre des apparences dans un cadre qui est celui de l'ordonnancement social. Donc voilà, donc c'est vraiment, quand j'entends le terme espace, aujourd'hui, enfin contextualisé dans le milieu urbain, contextualisé dans la ville, c'est une mise en forme hiérarchique des plantes afin d'influencer le corps dans cet environnement.
Tu viens de nous exposer une définition de la notion d'espace. Donc c'est une notion, comme on l'a vu, derrière laquelle se cache l'idée de construction et d'ordonnancement. Pourrais-tu nous aiguiller sur l'évolution de notre relation à l'espace, à la nature, peut-être même nous exposer une trame historique, sociale de cette relation?
Alors, une trame historique, évidemment, elle n'est pas exhaustive. Hein. C'est vraiment comment... C'est déjà un regard très... très subjectif sur la question. Mais je pense que selon les époques, le végétal a eu différentes fonctionnalités. Parce que voilà, c'est, le végétal est aujourd'hui a une fonction qui est une fonction de planification. Par exemple, au XVIIe siècle, les lieux de verdure sont des lieux de rencontre et de discussion. Les parcs, justement, la création des parcs. Donc, si tu as la capacité d'être dans des parcs, de pouvoir louer des chaises et t'asseoir, ça démontre que tu es d'un statut social assez élevé parce que tu loues le plus de chaises. Au XIXe siècle, donc, il y a plutôt la dimension bourgeoise et policée renforce l'idée, justement, de ces lieux de rencontre et de discussion. Et enlève complètement l'usage politique que pourraient avoir les plantes, en fait. Donc, c'est-à-dire que les plantes, c'est plutôt un endroit de loisirs, un endroit de balade, etc. Il y a cette fonction de sociabilité qui reste et qui est toujours d'actualité. D'ailleurs, on le voit dans les parcs, même si dans certains parcs, les choses sont beaucoup plus hygiénistes que d'autres. Et moi, c'est vraiment la chose qui me pose question et qui évacue, c'est-à-dire que, en fait, le végétal, l'espace où le végétal se situe, évacue toute revendication politique, tout événement révolutionnaire, tout espace de contestation. Et c'est plutôt la rue, dans ces cas-là, qui est investie pour ces espaces-là, c'est-à-dire que pour justement un espace de revendication. Alors, comme je disais un peu plus tôt, donc aujourd'hui, le végétal est vraiment un outil institutionnel de planification urbaine qui répond aux intentions politiques et répond à des fonctionnalités très précises. Donc, par exemple, le végétal peut avoir des fonctionnalités sociales, notamment dans les quartiers populaires, de convivialité policée dans les parcs, ou dirigée et sécuritaire à travers l'influence des déplacements et des stationnements des usagers. Par exemple, pour que les usagers ne s'assoient pas n'importe où dans l'espace public. Donc, on peut mettre notamment des pierres ou des choses comme ça, mais sinon, on plante des plantes ou des arbres pour pas que les usagers puissent se poser. Donc, il y a une vraie utilité aujourd'hui dirigée, alors je dirais pas sécuritaire, mais autoritaire, de l'utilisation de cet outil de plantes dans les espaces de planification. Voilà, c'est un regard historique assez très 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 court, quoi, mais ça montre en fait l'évolution des fonctionnalités, comment justement les instances de pouvoir utilisent aujourd'hui la nature, en fait. Enfin, la nature avec de gros guillemets, parce que ça veut tout et rien dire.
En domptant la nature et en y accolant des usages spécifiques, notamment dans les villes, on érige des idéaux, une vision fantasmée mais ancrée dans une approche politique. Est-ce que tu pourrais nous expliquer l'idée d'idéal urbain qui traverse donc la notion d'espace?
En fait, la question de l'idéal de l'urbanité est vraiment régie par la question de la civilisation, du civilisé, quoi. Buffon disait donc, les sauvages ne savent pas ce que c'est de se promener et rien ne les étonne plus dans nos manières que de nous voir aller en droite, en ligne et revenir ensuite sur nos pas plusieurs fois de suite. C'est-à-dire que là, vraiment,
voilà, c'est cette idée de balade dans les parcs, voilà. Et donc cette idée de civilisation qui relie l'urbanité et donc la planification urbaine. Donc et qui appuie cette dichotomie du coup nature-culture, sauvage-civilisée. Donc comme je disais, donc, la végétalisation des villes se manifeste par un ordre social, symbolique, voire politique. Et moi, ce qui m'intéresse dans le travail que je mène à la SEMEU, c'est la question du sauvage en ville. Comment parle-t-on de sauvagerie en ville? Et pourquoi, justement, est-ce qu'il existe des plantes sauvages en ville? Donc, c'est pour ça aussi que la première année que je suis arrivée au labo, c'était 2016, je me suis intéressée beaucoup aux friches. Et justement de cette faune et cette flore sauvage qui ont colonisé des espaces qui ont été abandonnés. Alors, je ne dirais pas abandonnés parce que ce ne sont pas des espaces abandonnés parce qu'il y a de la vie, mais en tout cas abandonnés de leur fonctionnalité, de la fonctionnalité qu'elles pourraient avoir avant, c'est-à-dire une usine, fonctionnalité liée à une certaine forme de capital. J'aime ce lien qu'on peut faire entre les plantes sauvages et l'idée du civilisé et du sauvage pour l'humain. Donc, c'est vraiment cette idée que le désordre végétal défait l'ordonnancement urbanisé et encourage des comportements désurbanisés et qui pourraient justement créer des fractures politiques. Donc, c'est un peu le lien que je fais, c'est-à-dire qu'on voit bien que nos villes sont très très polissés, très la manière dont la forme dont les arbres sont taillés, c'est souvent des formes très très claires, très directes. On peut voir à travers, on peut pas s'y cacher par exemple. Donc il y a vraiment quelque chose, une envie que par l'espace qui est construit, créer une personne civilisée. C'est quelque chose qui me questionne énormément parce que je le vois quotidiennement, quoi. Pour faire ce lien, il y a la question en fait du vocabulaire. Je trouve assez intéressant, par exemple, la question des mauvaises herbes, les indésirables. Donc voilà, il y a quelque chose d'assez fort, c'est-à-dire les indésirables, ça se calque totalement sur les humains aussi. Donc il y a des indésirables dans la ville, des individus qui menacent l'ordre social et politique. Donc pareil, il y a les plantes indésirables qui menacent une certaine manière de penser l'espace de la nature. C'est un philosophe qui s'appelle Jean-Baptiste Vidalou, qui est un philosophe assez radical, justement, qui parle juste de l'ordre, enfin de la planification des territoires pour dans des rapports de pouvoir hyper violents, que ce soit que n'importe quel pouvoir, le pouvoir royal, le pouvoir impérial ou républicain. C'est un gros enjeu pour eux de justement de planifier, de pas laisser la possibilité, une autre possibilité aux usagers d'avoir en fait leur espace à eux de créativité, hein, je dirais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir un espace de créativité en ville, et même que ce soit à la campagne, hein, c'est quand même très compliqué. Mais surtout en ville, on n'a pas énormément de marge de manœuvre, en fait. Et c'est ça, justement, que je pointe, en fait. Donc voilà, donc c'est un peu, pour moi, la question de l'idéal de l'urbanité, c'est une question civilisatrice.
Le travail de Gabriel va venir, je pense, nous éclairer sur cette notion d'espace et plus spécifiquement sur l'articulation espace, corps, rapports sociaux et normes. Je vais te laisser te présenter, Gabriel, exposer ton parcours et ta démarche.
Alors, pour commencer avec mon parcours, moi, j'ai diplômé en 2015 de l'école d'art et de design de Saint-Étienne. Et j'ai ensuite continué mes études aux Pays-Bas à la Design Academy d'Eindhoven avec un master en design social. J'ai diplômé il y a maintenant 2 ans. Et suite à cela, j'ai emménagé à Rotterdam pour y fonder mon studio de design, mais aussi surtout pour continuer à développer et approfondir le projet de diplôme multiforme. Du coup, j'avais diplômé de la Design Academy avec une longue recherche en design social, peut-être pour définir rapidement aussi comment est-ce que je vois le design social, que j'entends moi plus comme une discipline qui va un peu plus loin que penser le design juste pour ses formes plastiques, esthétiques, venir à questionner et penser l'implication sociale. Et quand je parle du mot design, j'entends aussi bien la question d'espace que d'objets, que de vêtements, que de signes graphiques, design un peu dans son ensemble. Mais du coup, voilà, venir questionner comment est-ce que le design va venir impacter des relations humaines, créer des hiérarchies, des relations de pouvoir, produire et renforcer des normes sociales, etc. Donc un peu dans cette démarche-là. Et donc inscrit dans une perspective d'un design social, moi j'ai commencé à mener une recherche à 3 ans, premièrement me questionnant sur la pratique du sport et de l'éducation physique. Donc venir en fait questionner quelles valeurs sociales sont reproduites et performées au sport, mais sont aussi surtout apprises. Quand on pense au contexte de l'éducation physique qui est positionnée dans les écoles. Et du coup, j'ai développé toute une recherche pour venir repenser le sport d'un point de vue queer et féministe, partant en fait du constat que toutes nos pratiques sportives n'ont jamais été vraiment radicalement re-questionnées ou réinventées, et que le sport est une très vieille pratique sociale en fait, qui a commencé durant la Grèce ancienne avec les premiers Jeux Olympiques, mais depuis qui n'a jamais vraiment été remis à jour pour correspondre un peu aux valeurs actuelles de notre temps. Bonjour à tous, bienvenue sur le terrain du jeu multiforme. Du coup, aujourd'hui, j'aimerais vous proposer de jouer ce jeu de ballon dont le but est de défendre le goal de vos équipes et d'attaquer les goals de vos adversaires. Pour cela, cependant, vos coéquipiers vont changer durant le jeu parce qu'à chaque coup de sifflet, vous serez invité à transformer votre uniforme. Pour commencer le jeu, j'aimerais vous inviter à ouvrir vos pochettes pour découvrir votre première équipe. De cette réflexion, j'ai développé le projet Multiforme, qui se présente en fait comme un outil pédagogique, qui est un nouveau jeu de sport d'équipe qui vient s'activer principalement par l'utilisation d'un uniforme de sport transformable. Donc, durant le jeu, qui est basé sur un format de 3 équipes, les joueurs sont constamment invités à venir changer d'équipe en transformant leurs vêtements. Et du coup, de cette manière-là, vient déconstruire la notion même de groupe, de notre appartenance à un certain groupe, mais aussi cette question de binarité qu'on retrouve souvent dans le sport, où on est toujours en fait dans un format d'une équipe contre une autre, d'un corps contre un autre, dans un terrain de sport aussi, dans un espace qui est aussi genré dans cette binarité, etc. Et partant du coup de ce projet multiforme que j'ai recommencé à redévelopper dans les écoles primaires et collèges de la ville de Rotterdam, en collaboration avec la philosophe Natania Van de Vel. J'ai aussi commencé à interroger les autres espaces en dehors de l'espace de la gym pour venir aussi en fait questionner les espaces éducatifs de l'école. Donc dans ce contexte-là, j'ai commencé aussi une nouvelle recherche pour questionner l'éducation et l'école d'un point de vue queer. Pas juste penser l'école du point de vue de la classe, de la salle de classe, mais venir questionner l'école et les espaces éducatifs aussi en questionnant l'école dans son ensemble. Donc, venir questionner quel genre de savoir construit et produit aussi bien, par exemple, dans le préau, dans la cour de récréation, dans les couloirs, dans l'entrée de l'école, dans les toilettes, et venir en fait questionner un peu ce curriculum caché qui se trouve dans chacun de ces espaces. Donc, aller plus loin en fait de ce savoir explicite qui est transmis. Voilà, venir un peu questionner quelles sont les valeurs sociales et normes qui sont reproduites et apprises dans ce contexte-là. Donc voilà un peu ma pratique en général qui, je dirais, pour résumer un peu, se concentre beaucoup sur venir questionner, challenger la reproduction de normes sociaux, mais aussi la reproduction d'un savoir normé dans différents espaces, que j'approche d'un point de vue queer et féministe.
Est-ce que cette articulation entre pratique sportive, lecture queer et féministe a été simple ? De quoi es-tu partie quand tu as amorcé cette recherche ?
Je pense que cette question est pas mal abordée plus dans le domaine des sciences sociales, type sociologie, philosophie un petit peu, mais pas du tout de mon expérience dans le domaine du design. Parce que si tu pars de la perspective du design, souvent des projets liés au sport seront plus inscrits dans un discours dominant de venir redesigner ou repenser nos équipements sportifs dans une perspective de bien-être, santé, etc., mais sans venir questionner radicalement en fait, quelles sont leurs implications sociales, qu'est-ce qu'ils produisent. Donc, c'est un peu où il y avait un manque de base, mais même si moi, ma réflexion n'a pas commencé sur le sport tel quel, mais plus en fait une question vraiment liée à des questions identitaires et à des questions de groupe, où j'ai pas mal en fait questionné notre rapport aux vêtements. Donc, un peu cette idée aussi d'uniforme, de comment est-ce que l'identité est performée à travers nos vêtements, comment est-ce qu'on performe cette identité aussi bien en tant qu'individu, mais aussi que groupes sociaux. Par les rôles qu'on répète, les gestures qu'on performe, etc. Et en fait, assez rapidement, j'ai commencé à plus à me réapproprier le vocabulaire du sport, aussi bien plastique que linguistique, plus en fait comme une sorte de métaphore pour venir questionner ces structures sociales liées à des questions de performativité.
Ce qui est intéressant dans ce que tu parles, c'est qu'on parle beaucoup dans les théories queer de la question de la performativité de l'identité et justement comment toi, en fait, tu fais... tu parles de la métaphore du sport, c'est-à-dire que en fait, ça serait une performativité à un endroit, vu le, par exemple, on parlait des habits, une performativité à un moment imposé, et donc qui oblige à se performer d'une certaine manière. Enfin, je n'ai pas tout à fait saisi, en fait. Qu'est-ce que tu entends par performativité à cet endroit-là ?
Déjà, si tu regardes la pratique du sport comme elle est telle qu'elle, par exemple, là, je parlais plutôt dans le contexte de la classe d'éducation physique, dans les écoles, dans un sens, pour moi, j'y vois vachement la notion de performativité dans le sens où, finalement, à travers le jeu, on vient performer énormément de rôles sociaux qui dépassent le contexte du jeu lui-même. Par exemple, on avait fait des interviews avec Natania durant le début de notre recherche avec les écoles, on demandait aux élèves quel genre de rôle sociaux y performer dans un jeu d'équipe, donc en référence à, par exemple, performer un rôle d'attaqueur sur le terrain ou un rôle de défendeur. Okay. Et la plupart du temps, on a reçu comme réponse, venant de la part des garçons qui performaient un rôle d'attaqueur sur le terrain, et de la part des petites filles, un rôle de défendeur, défenseuse. Mmh. Et nous, c'est un peu ce qu'on investit du coup avec cette recherche de pensée, comment est-ce que, en fait, même déjà dans le sport, de base, on est constamment en train de re-performer des structures sociales plus larges, qui sont performées et apprises. Mais du coup, avec le jeu et les outils qu'on développe, c'est un peu venir voir comment est-ce qu'on peut challenger ça. Comment est-ce qu'on peut du coup inviter les enfants ou d'autres personnes qui participent au jeu à venir performer de nouveaux rôles au sein d'un groupe, à se retrouver désorientés par rapport justement à nos systèmes d'orientation habituels, si d'un seul coup le groupe a changé, si tu passes si tu passes de performer à l'intérieur d'un grand groupe ou d'un petit groupe, etc. Donc un peu venir désorienter cette sorte d'orientation sociale qu'on a habituellement au sein d'un groupe.
C'est intéressant cette notion de désorientation, justement, c'est-à-dire ça revient avec, ça me permet de rebondir avec ce que je disais un peu plus haut sur la question de la planification pour justement orienter les déplacements et que donc là dans cet même si j'avais commencé à espace intellectuel, espace physique, il y a différentes idées. Tu parlais de l'espace de l'école notamment et là de l'espace social qui est en fait des espaces totalement orientés et la méthode de la désorientation qui est une méthode un peu de tâtonnement. On est d'accord. Enfin, je ne sais pas si c'est un peu cette idée de tâtonnement, d'improbable, de ne pas savoir exactement où on va, permet de faire ressortir des résultats, parce que là on est dans le cadre d'une étude, hein, c'est quand même une méthode scientifique, mais dans un travail de désorientation, permet de sortir des résultats totalement autres qui sortent de cette désorientation. Et je trouve que c'est très intéressant parce que là, il y a une vraie articulation, je trouve que des théories queer à justement une méthode scientifique, quoi. Tu vois.
Et je pense que si tu refais aux théories queer, enfin, typiquement le queer de base, c'est aussi défini comme quelque chose de bizarre, de tordu. Mais aussi dans ce sens-là, de désorienter par rapport à ce qui est straight, comme on dit en anglais, de la ligne droite, et justement de venir faire un pas de côté, ou là, littéralement, en fait, même dans la méthode qu'on approche, avec cette idée de queering, queeriser, comme on dirait en français, de désorienter pour venir en fait, sortir de la norme, et du coup, venir réaliser aussi à quel point on était orienté au point de départ.
Tout à fait, oui.
Chez toi, Gabriel, il y a différents niveaux de langage. Tu es en train de faire dévier ta pratique de designer dans le monde des sciences sociales, mais également dans les sphères de l'éducation. Comment passes-tu d'un espace à l'autre, d'un domaine à l'autre, et finalement d'un discours à l'autre ?
D'une certaine manière, ouais, je pense que c'est sûr que je suis très conscient de la manière dans laquelle je réadapte constamment mon langage en fonction de mon public. Et aussi notamment parce que toute ma recherche est fondée par différentes subventions sociales. Et en fait, déjà de base, en développant cette recherche et venir demander différentes subventions, pardon, culturelles, pas sociales, pour ce projet à différents partis, était déjà de base un exercice de naviguer différents intérêts. Par exemple, d'un coup, si c'est venir justement demander directement à la municipalité de Rotterdam de venir la financer, ce genre de recherche, et du coup de devoir adopter un vocabulaire totalement différent qui vient s'aligner avec les priorités du gouvernement local, ou du coup dans ce contexte-là, ma recherche et le projet est toujours utilisé, formalisé, disons avec le vocabulaire même de ces espaces, en parlant d'inclusion sociale, d'innovation sociale, un peu ces grands mots qui font plaisir dans les municipalités.
Dans les dossiers de subvention.
Dans les dossiers de subvention. Et à l'inverse, je demande aussi des subventions sur des organismes plus culturels et vraiment pointus en design, où là, pour le coup, je viens totalement revendiquer l'approche queer, toute la méthodologie derrière, etc. Et ça devient une manière complètement différente d'amener le projet. Et du coup, de base, même en fait, avant d'arriver dans les espaces de l'école ou de travailler avec différents experts, même dans la rédaction elle-même en fait, du projet de base, se fait déjà à la croisée de différents vocabulaires, donc de différentes disciplines, mais aussi différents contextes. Et ensuite, après, oui, c'est sûr que ça spécial, challengeant parfois de aussi naviguer entre travailler avec une philosophe, avec un prof de PS, avec des enfants d'école primaire.
Et pas, tu vis bien.
J'imagine que ça doit aussi décloisonner énormément de choses. C'est-à-dire, en naviguant dans ces différents espaces, il doit y avoir des éléments de réponse que dans un espace, vu le système social dans lequel cet espace-là s'est construit, des éléments de réponse ne peuvent pas arriver, alors qu'en naviguant à un autre, peut-être que des choses peuvent ressortir et pour réagencer en fait un modèle de réflexion, par exemple.
Oui.
Le lien, par exemple, entre travailler avec des scientifiques et avec une école avec des primaires, c'est toujours intéressant parce que c'est quand même des manières de vivre, de ressentir, des démarches qui sont totalement différentes. Donc, il y a aussi cette idée-là. Quoi.
Et on n'a pas tous aussi les mêmes objectifs, forcément, et la même implication. Et du coup, dans ce sens-là, je pense que c'est toujours une constante négociation un peu de ce qu'on fait. Quoi.
Bien sûr.
J'aimerais maintenant que l'on questionne la période que nous sommes en train de vivre, celle du confinement. Nous travaillons tous à distance, notre rapport à l'espace est donc de fait modifié. Comment questionner cette notion à une période de renégociation des modèles, tant socio-économiques que culturels ?
L'espace est aussi la relation des corps à un environnement. Et là, en fait, c'est la relation des corps à plusieurs environnements. C'est-à-dire que l'espace, que ce soit dans un rapport autoritaire ou pas, c'est quand même de la médiation, en fait. C'est-à-dire comment est-ce qu'on médie aussi à cet endroit-là. Et là, il y a tout qui, justement, qui se diffracte, on va dire. Et du coup, je pense que moi, c'est quelque chose qui me fait assez... qui me questionne énormément. C'est-à-dire... de me dire que, par exemple, on puisse... enfin que cette pandémie, en fait, ce qui nous arrive en ce moment, puisse créer de nouveaux usages. Donc ça, c'est pourquoi pas, c'est intéressant. Mais en fait, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est la déviance de ces usages, c'est-à-dire la question, par exemple, du travail chez soi dans un espace qui a plusieurs. Si on parle vraiment de l'espace du travail et l'espace de la maison, de créer une porosité entre ces espaces-là, pour moi, peut créer une sorte, enfin, ça peut collapser avec l'espace psychique. Et en fait, en faire un usage qui s'ancre dans un récit social ou dans la société, je trouve que la déviance qu'il y en a, c'est la question de l'économie. Donc, en fait, je suis plutôt dans un questionnement de l'après. C'est comment, en fait, ce nouvel usage va être le besoin pour les États en place de créer de nouveaux espaces de médiation sociale au travers les nouvelles technologies. Enfin, au travers les nouvelles technologies, voilà, le télétravail. Et moi, ce qui me pose la deuxième question, c'est l'utilisation, justement, des chercheurs, justement, par exemple, en design social, etc., dans ce cadre-là. Et du coup, parce que c'est toujours un peu mon cheval de bataille par rapport à ça, c'est la question de créer un rapport critique, en fait, sur ce qui nous arrive. Et un rapport critique veut dire aussi collectif. Et pour moi, la question, et ça, c'est une vraie question aussi que je pense que je te pose aussi, Gabriel, c'est pour moi la question du collectif. La question du collectif est aussi un moment doit se retrouver dans un même espace, en fait, je pense. Et je pense que cette séparation, en fait, enfin, cette séparation obligée, etc., peut empêcher une réelle rencontre politique, et je dis pas juste en termes de revendication, mais vraiment en termes de communauté. Et ça, c'est quelque chose qui me questionne, en tout cas pour la suite. Alors, ma question que je poserais, c'est quel détournement, parce que c'est là-dessus, moi, qui toujours, c'est comme ça, quel détournement pouvons mettre en place, en fait, au travers de ce nouveau médium de l'espace, en fait. Voilà.
Que finalement, pour les personnes qui étaient déjà à distance ou entre deux espaces, un peu comme moi qui suis basée maintenant aux Pays-Bas, mais je reste vachement très en contact avec la France, aussi bien pour le travail qu'avec mes proches. Finalement, la situation actuelle m'a aussi permis de me rapprocher, reconnecter aussi, de certaines manières, avec d'autres espaces et d'autres personnes. Des plateformes en ligne plus souvent, mais aussi, pourquoi on n'était pas déjà plus souvent en contact avec les uns, avec les autres, ou des choses comme ça. Pourquoi est-ce qu'il faut une situation telle quelle, en fait, pour aussi se reconnecter finalement socialement avec certaines personnes, dans ce sens où moi, je me sens plus proche que jamais avec certains partenaires, certains amis, certains membres de la famille, etc. Du coup, je trouve intéressant aussi, en fait, que comment est-ce que le confinement, finalement, à travers cette distance physique, a aussi pu rapprocher nos espaces, dans un sens. Et notamment aussi, je suis vachement inspiré par différentes communautés queer qui s'organisent vachement en ligne en ce moment pour déjà créer beaucoup de groupes de soutien, paroles, connexions, etc. Mais aussi pour continuer à produire de la culture et continuer à produire des spectacles, des performances, des concerts, des cabarets, et continuer à maintenir ces espaces, qui sont aussi des espaces activistes, en ligne, d'une certaine manière, et qui deviennent plus accessibles que jamais, aussi, pour beaucoup de gens. Donc, dans un sens, je pense que je suis assez optimiste, ou du moins j'aimerais bien qu'on puisse garder, en fait, ce qu'on a gagné ces dernières semaines en termes de rapprochements sociaux. Mais bien sûr, la question de l'après, et aussi d'un point de vue politique, si on questionne aussi juste notre droit à occuper l'espace public, à venir à manifester, à venir faire entendre sa voix, etc., est aussi vachement problématique sous la forme de tous ces réseaux actuels et de tous ces formats qui sont quand même très explosés d'une certaine manière. Où cette idée un peu d'espace public, d'espace partagé est vachement fragmentée.
Merci pour vos pertinentes réponses. Pour conclure, j'aimerais que vous nous donniez vos mots de la fin.
J'avais envie de faire une citation sur. Je pense que ça, c'est bien en lien avec justement ce qu'on vient de dire. C'est une citation de Bernard Chardonneau. En fait, c'est un penseur du XXe siècle et j'ai lu, je suis en train de lire en ce moment, en confinement, son livre qui s'appelle « Lexique du verbe quotidien ». Donc, c'est un des pionniers de l'écologie politique. Donc, et il est totalement inconnu et il a tout un chapitre qu'il a nommé « Notre fin d'espace ». Et voilà, j'avais envie de le partager un peu avec vous et je trouve que ça donne écho, ça fait écho. Alors, nous prenons une conscience grandissante de l'espace comme du temps et cette conscience nous amène à les mesurer de façon toujours plus précise. Nous estimons l'espace à un micron près. Nos frontières tranchent le sorbet de l'Antarctique sans en perdre un millimètre. Nous connaissons sa valeur. Quand nous construisons une maison, nous calculons le moindre centimètre car nous la payons en mètres. Il n'y a pas d'espace, aussi nous manque-t-il quelquefois. Nous avons appris à faire le point, rien qui ne soit situé sur la carte. Nous dressions celle des montagnes et des fleuves, nous établissons maintenant celle des opinions politiques, de la grippe ou de l'adultère. Nous avons pris conscience de l'espace parce qu'il commence à nous manquer, à la fois l'étendue et le lieu qui le détermine. Quelle que soit la puissance de nos moyens, il se limite toujours aux bornes de la Terre et plus strictement encore à la durée de l'homme. L'espace, c'est le temps. Le monde médiéval était infini, le nôtre se réduit à quelques heures de tour par nos avions, à quelques secondes par nos nouvelles. Ce vol foudroyant qui nous transporte en quelques minutes réduit nos espaces en quelques mètres. La Terre n'est plus qu'un point si la puissance de nos armes peut la détruire en un instant. Nous parcourons l'espace toujours plus vite, mais cet espace plus étroit, nous le tenons de mieux en mieux. Des cartes dont l'échelle est toujours plus petite en dressent l'inventaire. Des routes, le parcours et les administrations le délimitent. Plus d'îles désertes, car l'océan n'est plus désormais qu'un champ de tir. D'un peuple ou d'un pays à l'autre, il n'y a plus la distance ou l'ignorance qui pouvait tenir lieu de sagesse et de paix. Nous n'avons pas le temps de voir venir. Physiquement, nous ne faisons plus qu'un dans cette cellule. Mais si le corps se touche, les cœurs sont à des milliers de milles. Donc, j'ai trouvé ça assez intéressant par rapport à ce qu'on disait sur le rapprochement social. Tu vois, parce qu'en période de confinement, et la question du temps et de l'espace, en fait, c'est vrai que c'est quelque chose. Il amène la notion du temps dans l'espace, que je trouve aussi intéressante, et c'est vrai qu'on l'a pas abordé. Je te laisse.
Mes mots de la fin. Premièrement, je voudrais vous remercier pour l'invitation à venir discuter avec vous ces questions d'espace qui, je pense, sont très importantes à réfléchir et pour finir aussi, lors de notre discussion, je me demandais aussi peut-être une dernière réflexion sur comment est-ce qu'on peut faire espace avec nos corps aussi. Est-ce qu'on peut penser notre corps aussi en termes d'espace et comment est-ce que nos corps peuvent créer des espaces si nos corps font communauté et du coup qui est-ce qu'on inclut ou non dans ces espaces et comment est-ce qu'on prend soin de ses membres. Voilà.
Merci. Merci à toi.
Merci Gabriel, merci Ariane.
Merci à Fé.
À bientôt pour une prochaine émission d'Imperfection.